Radio Kapi. Oh, Kapi.
Deuxième jour ce mardi des épreuves de l'examen d'État édition 2021 en RDC. Tout s'est bien passé en général pour la première journée hier, mais quelques problèmes signalés tout de même en Ituri à cause de l'insécurité et à Manono dans le Tanganyika. Un centre aurait été incendié, rapporte l'inspecteur général de l'EPST. Une vingtaine de personnes tuées, d'autres portées disparues, plusieurs maisons incendiées. Bilan des deux attaques le week-end dernier à Kasandi Kitovo et à Oicha dans le Beni. Pour l'ONG CEPADO, ces actes visent à combattre l'état de siège. Entre-temps, l'Assemblée nationale a adopté hier pour la 7e fois le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Et puis, José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, c'est notre invité ce matin. Il fait le point de sa récente visite sur le site minier de Chinkolobwe, territoire de Kambov, dans le Haut-Katanga, site officiellement fermé mais exploité clandestinement. Sachez tout d'abord qu'un accord a été trouvé entre l'UNAFEC et les autorités du pays sur le lieu de l'inhumation de Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, président national de ce parti politique. D'après le secrétaire général interfédéral de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC dans le Grand Katanga, c'est dans la ferme privée de l'illustre disparu qu'il aura sa dernière demeure. Ce lieu aura un caractère touristique de grande portée où les hommages lui seront rendus. Madame, Messieurs, bonjour. Examen d'État édition 2021. Les épreuves se sont bien déroulées de manière générale sur toute l'étendue du pays pour la première journée hier. Cependant, quelques problèmes ont été signalés, notamment en Ituri, à cause de l'insécurité créée par les groupes armés et dans la province du Tanganyika, particulièrement à Manono, où un centre aurait été incendié. Ce bilan est dressé par Jacques Odiamusungai, inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique. On l'écoute.
Je dois avouer que dans l'ensemble, ça se passe bien, mais il y a de quoi que vous avez remarqué qu'en Ituri, il y a surchauffe à cause des groupes armés. Mais il n'y a pas que là, je viens d'apprendre, dans le Tanganyika 2, nous sommes là à Manono exactement, il y a également surchauffe. L'épreuve de ce jour ne s'est pas déroulée parce que il y a eu incompréhension, me semble-t-il. J'attends également un rapport écrit de l'inspecteur principal provincial. Il semble qu'on a incendié le bureau du chef de sous-division provinciale, mais également celui de l'inspecteur chef de poule. Il y a eu incompréhension. Il semble que les candidats de ce côté-là qui doivent se présenter à l'épreuve que nous appelons gymnastique, c'est le cycle court, il y a eu incompréhension. Ils prétendent que les questionnaires qui sont dans la malle ne sont pas compatibles avec leur option. Je ne comprends pas moi-même ce que ça signifie. Nous suivons la situation de plus près. J'attends un rapport écrit de l'inspecteur principal provincial. Mais pour le reste, ça va encore.
En dehors des frontières de la RDC, les épreuves de l'examen d'État n'ont pas eu lieu dans le camp des réfugiés congolais en Tanzanie à cause de ce que l'inspecteur général de l'EPST qualifie d'incompréhension au niveau diplomatique. Jacques Odiamusungai affirme que ces épreuves pourraient reprendre aujourd'hui. On l'écoute encore une fois.
Également, en haute frontière, il faut souligner que en Tanzanie, dans le territoire haute frontière, comme nous le disons souvent, l'épreuve n'a pas eu lieu ce jour, tout simplement parce qu'il y a eu incompréhension également. Les autorités de ce côté-là n'ont pas laissé passer la malle, au motif que la disposition prise en 2009 interdit à tout corps étranger d'accéder au camp des réfugiés. Mais il fallait que notre ambassadeur de ce côté-là et le consul se mettent en branle pour que les choses aillent comme il se doit.
Le gouvernement n'était pas au courant de cette situation.
Non, c'est à la dernière minute qu'on l'a dit. C'est exactement à 23h. J'ai fait un texto également à toutes nos autorités, mais nous croyons que ça va se réaliser. Si l'épreuve n'a pas lieu aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Ça pourra reprendre demain parce qu'on nous rassure que ça marchera. Et heureusement que les épreuves ne sont pas les mêmes. Nous avons pris des dispositions que chaque province a son épreuve. Là, c'est considéré aussi comme une province et ça marchera. Si les choses se passent correctement de ce côté-là. S'il y a entente entre les deux autorités locales.
Notez que l'inspecteur général de l'EPST intervenait hier dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kéline Kouté. Il ajoute que ces épreuves sont organisées dans les pays limitrophes de la RDC, dans les écoles consulaires. C'est le cas en Tanzanie, en Angola, en Ouganda, au Burundi et au Rwanda. Jacques Odiamusungai ajoute que les inspecteurs se rendent sur place, contrôlent et ramènent les malles à la fin des épreuves. Du côté du Kwango, plus de 20 000 candidats, dont 12 000 garçons et 8 000 filles, prennent part à l'examen d'État édition 2021 sur toute l'étendue de la province. C'est le gouverneur Jean-Marie Petit-Petit qui a livré ces chiffres lors du lancement officiel des dites épreuves hier à Kenge par le ministre de l'EPST Tony Mwaba, Jean-Marie Petit-Petit, gouverneur du Kwango, dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Il s'est déplacé de Kinshasa pour venir lancer l'examen ici. Les épreuves des examens d'État qui sont très importantes à travers toute la République. Alors nous ne pouvons que remercier. Et aussi remercier le chef de l'État, son Excellence, Antoine Félix Tshisekedi. La province du Kwango a 7 millions d'habitants. C'est une grande province, non négligeable. Nous avons deux provinces éducationnelles, Kwango 1, Kwango 2. Kwango 1, 15 divisions, sous-divisions. Et Kwango 2 aussi, Kwango 2 a 12 divisions. Alors je pense que la suite, c'est que c'est vrai, il y a pas mal de participants. Les finalistes sont au nombre de 12 000 garçons et 8 000 filles. Vous voyez l'importance de cette épreuve qui est capitale pour chacun de nous aussi, et les finalistes et nous qui sommes parents aussi. Bon, je pense que jusque-là, tout se passe très bien. Espérons qu'à la fin de la journée, nous recueillerons de bons résultats.
Je vous le disais en titre, une vingtaine de personnes tuées, d'autres portées disparues, plusieurs maisons incendiées, c'est le bilan des deux attaques enregistrées en fin de semaine dernière dans le territoire de Beni au nord Kivu. La première attaque a eu lieu vendredi à Kasandi Kitovo, la seconde à Oicha. Cette situation a occasionné le déplacement de nombreuses personnes, le récit de Guylaine Kassassia.
La première attaque a fait 19 morts, dont 10 femmes, selon Nola Mouliwavio de la cellule de contrôle de la société civile du territoire de Beni. Selon la même source, elle a eu lieu vendredi dans le village de Kasanze Kitovo, dans le groupement Buliki. Après cette attaque attribuée aux EDF, plusieurs civils sont portés disparus. Une dizaine de maisons a été incendiée. Le lendemain, trois personnes ont été tuées à Ouicha, chef-lieu du territoire de Beni, dans une incursion de présumés EDF. Isaac Kavalam, président de la société civile locale, condamne cette attaque et appelle l'armée au patriotisme. Dans un communiqué publié dimanche, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO, a condamné ces attaques. Pour l'ONG, ces actes sont une manière pour les DF de combattre l'état de siège. L'organisation appelle la population et les militaires à plus de vigilance pour mettre en déroute l'ennemi et ses complices. Jusqu'à ce lundi, un déplacement important des habitants est observé dans ce coin du secteur de Rwenzori, renseigne le coordonnateur de la nouvelle société civile du secteur, Mumbere Meleki, Beni. Glen Kassassia, Radio Okapi.
Entre-temps, l'Assemblée nationale a adopté hier pour la 7e fois consécutive le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il prend effet à dater du 3 septembre prochain pour 15 jours. Cette loi sera transmise au Sénat pour seconde lecture. Restons au Parlement où la Commission économique et financière du Sénat continue les auditions des membres du gouvernement et les mandataires des entreprises publiques. Hier, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a été entendu sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale de contribuer au budget de l'État ont été à l'ordre du jour. Par ailleurs, les sénateurs ont voulu en savoir plus sur le budget d'investissement des provinces et la non-activation de la caisse de péréquation. Le directeur général de la migration a aussi répondu à l'invitation de l'Écofin du Sénat et les sujets liés à la sécurité ont été évoqués. On écoute les explications du sénateur Papi Bazego, rapporteur de la commission Écofin, dans ses propos choisis par Alain Rungmushinj.
L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'Écofin du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser les recettes. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission Ecofin est en train de faire, ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de loi de finances 2020 et 2021, ainsi que, n'est-ce pas, la reddition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'Ecofin est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, disons, la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'Ecofin, aujourd'hui, est rassuré, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public.
Avec la ministre des Mines, Antoinette Samba, les échanges ont tourné notamment autour de la formation et l'encadrement de l'exploitation artisanale des minerais et la contribution du secteur des mines au budget de l'État. Le 30 août hier a marqué le déclenchement du décaissement des subventions de croissance pour le soutien aux petites et moyennes entreprises retenues à l'issue du concours des plans d'affaires organisé par le programme d'appui pour le développement des micro et des petites moyennes entreprises, PADEM-PME. Les deux banques commerciales désignées ont reçu à leurs sièges centraux de Kinshasa les ordres de paiement y relatifs. Pour cette première série, ce sont essentiellement une soixantaine d'entreprises de Matadi et de Lubumbashi qui sont servis. Leurs dossiers ont été validés par le cabinet conseil du PADEM-PME dans la mise en œuvre de ce programme pour la croissance et l'amélioration de la performance des PME. On écoute les explications de Jean-Luc Moilou, chargé de communication au PADEM-PME. Il est au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Nous avons déposé dans la matinée de ce lundi 30 août les ordres de paiement à Equity BCDC et Robank, les deux banques commerciales où sont logés les fonds de subvention de COPA. Ces ordres de paiement sont accompagnés des listes de PME ayant ouvert des comptes dédiés dans ces établissements pour les opérations liées au plan d'affaires retenu. Pour nous, c'est un pas décisif qui vient d'être franchi parce que la subvention était très attendue, même si nous avions déjà mis en route un accompagnement technique personnalisé pour chaque PME avec l'appui des coachs mis à leur disposition par notre partenaire technique, le consortium Deloitte IEF Entrepreneuriat et Kivon Entrepreneur. Nous espérons que tous les lauréats seront vite servis parce que nous en avons reçu les assurances de la part des banques vu qu'il s'agit essentiellement des opérations internes. Mais nous en appelons surtout et avec insistance aux PME qui sont encore en retard dans la définition des plans de travail et du plan de décaissement avec les coachs pour qu'elles puissent accélérer le rythme et cela nous permettra de finaliser rapidement ce processus.
Les fonds versés vont servir à financer les plans d'affaires sélectionnés à travers le concours organisé à cet effet. Ce processus concerne 436 PME de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, évoluant dans les secteurs de l'agro-transformation, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée. Santé au Nord Kivu, 28 personnes décédées de COVID-19 la semaine dernière au sein de la communauté, dans la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Guy Makelele, responsable de cette antenne, affirme que ces cas de décès ont été notifiés parmi 102 nouveaux cas positifs de COVID-19 enregistrés dans la même semaine. Il indique que le nombre d'échantillons à prélever diminue de plus en plus dans la région à cause de la grève des infirmiers. Guy Makelele, dans ses propos recueillis par Florida Kahambo.
On a enregistré pendant cette semaine 102 nouveaux cas sur toute l'étendue de l'antenne DPS. Et dans ces chiffres, nous avons 10 zones de santé qui sont concernées, réparties de la manière suivante. Beni avec 13 cas, Butembo 21, Katwa 31, Kiondo 4, Lubero 3, Mandrujipa 6, Masereka 7, Musenene 1, Oicha 10, Vuvi 6. Le grand problème pour le moment, franchement, c'est la grève des prestataires qui impacte négativement nos activités de surveillance. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que le nombre d'échantillons va vraiment en diminuant. Malheureusement, la positivité des tests reste toujours élevée. On a enregistré 28 décès communautaires. Beni en a 5, Butembo 1, Katwa 16, Kiondo 2, Masereka 1, Oicha 2, Vuvi 1.
Étant donné que la montée du nombre des cas de décès communautaires serait également liée à la grève des infirmiers, indique Guy Makelele, il encourage donc les malades à se diriger vers les structures sanitaires qui ont commencé à organiser un service minimum en attendant la levée de la dite grève.
Actualité Afrique Monde.
La veuve de l'ex-président rwandais Juvénal Habyarimana fait l'objet d'une enquête depuis 2007 pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Elle est soupçonnée d'être l'un des cerveaux du génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis en 1994. Après 14 ans de procédure, la Cour d'appel de Paris a déclaré lundi irrécevable la demande de non-lieu des avocats d'Agathe Habyarimana. Cette décision n'est satisfait finalement personne. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda qui a porté plainte dans cette affaire, la considère quelque peu ambiguë, dit-il.
L'invité.
Il s'agit de José Mpanda Kabangu, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il a effectué une visite sur le site minier de Chinkolobwe, dans le territoire de Kambov, province du Haut-Katanga. Plusieurs sources attestent que cette mine d'uranium, qui a été officiellement fermée, est exploitée clandestinement par certaines personnes. À ce sujet, le ministre José Mpanda Kabangu répond aux questions de Jean Gando.
Monsieur le ministre José Panda, bonjour.
Bonjour.
Vous avez effectué une visite dans la mine de Chinkolobwe. D'entrée des jeux, dites-nous, quel rapport y a-t-il entre votre ministère et les mines?
Il faut d'abord rappeler que le ministère de la recherche scientifique, c'est un ministère transversal, puisqu'il faut faire les recherches dans tous les domaines pour arriver à donner ce qui est potable. Pourquoi nous sommes allés à la mine de Chinkolobwe qui est fermée? Il faut rappeler que notre pays gère également les nucléaires. Nous avons tout ce qu'il y a comme matière liée à l'uranium. Et il y a tout ce qui est matière radioactivité et que les mines de la République doivent faire l'objet d'une étude préalable pour arriver à savoir quel est le potentiel de chaque minerai. Et dans ma structure, sous tutelle, j'ai non seulement le commissariat général à l'énergie atomique, mais j'ai également les CNPRI, mais j'ai également les CERGEM, les CRG. Les CERGEM, c'est un centre qui fait les études géologiques, mais également le CRENK est en train de voir comment, comme prestataire en matière de tout ce qui est nucléaire et radioactif, avec l'autorité de régulation qui est le CNPRI. C'est à ce titre-là que mon ministère intervient en matière des mines.
Vous avez dit, monsieur le ministre, que la mine de Chinkolobwe a été fermée depuis longtemps, mais nous apprenons qu'il y a quand même certaines incursions clandestines dans cette mine où on exploite encore de l'uranium. Qu'est-ce que vous avez constaté une fois sur le terrain?
Cette mine avait été interdite et même fermée par une ordonnance présidentielle. Mais comme il y a toujours des malins qui peuvent venir prétendre exploiter, c'est pour cela que nous avons eu d'alerte de la Chikamine, d'alerte du gouvernement provincial de Katanga, le ministre des Mines m'a saisi, et même la société civile du Haut-Katanga m'a saisi également pour prétendre qu'il y a une exploitation clandestine. C'est pour cela qu'on est venu vérifier. Il faut quand même relever qu'on a eu à arrêter quelques camions qu'on prétendait sortir du site interdit. Comme il y a des sociétés minières qui sont légalement établies dans la province, qui exploitent autour du site interdit, quand on est allé sur le terrain, on a constaté qu'il y a des sociétés comme Lualaba Mining, comme KPM, qui sont des sociétés environnantes du site interdit, qui exploitent, mais qui semblent donner de la confusion. Est-ce que les exploitants artisanaux ont exploité dans les sites interdits ou ils ont exploité dans les sites environnantes? C'est ça le travail qu'on a pu faire. Nous nous sommes fait accompagner du ministre provincial, de l'agence scientifique et même du ministre des Mines. Et on a fait le constat avec les experts du CGA, du CERGEM, du CNPRI. Et ces rapports-là sera fait à l'autorité qui nous a délégué sur le terrain pour qu'on arrive exactement à savoir si les minibus qui ont été arrêtés avec les minerais vers l'ICASI proviennent du site interdit ou proviennent des sociétés environnantes. Puisque nous estimons que les sociétés minières environnantes ont des sécurités et que même les sites de Chinkolobwe a également la police, a également le FARDC, et nous devons identifier l'origine. Ça, c'est un travail sécuritaire. Mais également, les services techniques, CNPRI et CGA et CERGEM, doivent nous aider à savoir est-ce que les minéraux arrêtés présentent les dangers de radioactivité qui se confondraient à l'uranium. Voilà ce travail que nous devons faire. Ça demande des analyses, d'abord techniques, pour que les CERGEM puissent aller analyser les produits qu'on a pu prendre comme échantillons pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme teneur dedans. On ne peut pas d'office déclarer que dans les sites qui est interdit, tout ce qui sort, c'est l'uranium. Donc, on ne peut pas d'office arriver à conclure sans que les services de sécurité ne nous disent exactement l'origine des minéraux, mais sans aussi que les services techniques ne nous disent si la matière est radioactive, oui ou non. Donc, nous attendons les rapports de sécurité et les rapports techniques des services habilités qui doivent nous dire exactement la nature du produit.
Pour terminer, monsieur le ministre, ce site sera fermé pour toujours ou il pourra être réouvert un jour, mais quand on sait que l'uranium également créer des revenus pour le pays. Il y en a qui continuent à les vendre à travers le monde.
Je ne peux pas, moi, en tant que ministère seul, comme c'est une décision qui a été prise par la haute hiérarchie, arriver à déterminer au jour d'aujourd'hui si on peut lever la mesure, oui ou non. C'est une décision qui engage le gouvernement. Ça sont des questions qui relèvent du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre et du Président de la République. Mais je conseille qu'on peut toujours utiliser, puisque c'est un revenu important pour la République, mais à des causes licites. Mais quand c'est exploité pour des causes illicites, c'est là où ça pose des problèmes. Donc, je m'en remets à la décision de la haute hiérarchie, qui est le Président de la République qui avait pris la décision, par l'acte contraire. Il n'y a que lui qui peut examiner avec le gouvernement tout entier.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Notre invité, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, était avec Jean Gandou. C'est la fin de ce journal coordonné et supervisé par Alain Irongmouchinj. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis.